Bien, merci. Cette communication devrait durer moins d'une heure. Si vous êtes concentré, attentif, on sera plus près du trois quarts d'heure, sinon on risque de prendre plus. Donc je vous invite à être concentré et attentif. Si vous n'avez pas besoin pour m'écouter de vos objets, fermez-les. Par contre, si vous voulez prendre des notes dessus, il n'y a pas de problème pour moi. Simplement, utilisez-les pour qu'on soit à fond dans notre objet pendant une petite heure, plutôt que dispersé. Bien. Donc, comme on vous l'a annoncé, le titre de cet amphi, c'est « Valoriser vos travaux à l'écrit et à l'oral ». C'est un complément, une suite du séminaire de communication. Comment réutiliser tout ce qu'on a pu voir pendant une semaine pour produire des écrits de qualité, des oraux de qualité, dans un contexte où on a à valoriser ce qu'on fait. Ici, on va parler de projets, parce que c'est les objets sur lesquels vous allez travailler, vous êtes en train de travailler déjà, le projet de département. On parlera aussi du projet d'initiation à la recherche qui va venir un tout petit peu plus loin dans votre scolarité. Mais évidemment, si on travaille ça, c'est pas uniquement pour que vous ayez des bonnes notes dans les objets pédagogiques qui suivent. C'est parce que derrière, dans votre vie professionnelle, vous aurez en permanence à produire des rapports, en permanence à faire des soutenances orales, et que plus tôt vous vous mettrez à réfléchir la manière de produire des choses de meilleure qualité possible, mieux ça sera pour que vous puissiez utiliser votre temps à l'école pour vous entraîner à produire de bonnes interventions et de bons rapports. Voilà. Alors voilà de ce dont on va parler aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce que valoriser? Deuxièmement, l'acte de conception, plutôt la conception d'un acte de communication qui vise à valoriser nos travaux. Troisièmement, l'écrit et enfin l'oral. Alors j'enchaîne tout de suite avec la valorisation. Qu'est-ce que valoriser? Et pour commencer, une première question. Quelle est la valeur de ce vélo? Est-ce que quelqu'un a des idées? Allez. Je lance les enchères. 100, 200. Alors, j'ai entendu un certain nombre de propositions chiffrées. Est-ce qu'il y aurait des propositions non chiffrées? Je n'ai pas entendu de propositions non chiffrées. Bon, alors, les enchères allaient entre 30 et 200, je suppose, euros. Bon, je pense que vous avez tous en tête que la bonne réponse, c'est ça dépend. Autrement dit, on n'a pas d'informations qui nous permettent de savoir quelle est la valeur de ce vélo, parce que ça dépend énormément du contexte. Imaginez que vous êtes en pleine Deuxième Guerre mondiale, qu'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de transport. Ce vélo a une énorme valeur pour vous déplacer, éventuellement pour aller chercher un sac de patates à 30 km de chez vous, parce que c'est le seul lieu où on peut en trouver, et revenir nourrir vos enfants. Si ce vélo, vous le trouvez dans un troc épuce à Champs-sur-Marne la semaine prochaine, il y a des chances qu'il ne vaille pas grand-chose. Si ce vélo, vous le trouvez dans une grande vente aux enchères, d'un grand professionnel de la vente aux enchères, et qu'on vous dit qu'il a appartenu pendant 5 ans au général de Gaulle, il va tout d'un coup se remettre à avoir de la valeur. Donc vous voyez bien que la valeur, elle dépend d'un certain nombre de critères, et que elle est toujours relative, et que pour la connaître, il faut connaître les critères d'évaluation. Eh bien, ça vaut pour vos travaux. La valeur de vos travaux, c'est pas un en soi. Vous pouvez avoir fait un travail dont vous êtes super content. Vous vous dites, ouais, j'ai bien travaillé, ça mérite une bonne note. Et qu'on vous dise, oui, non, mais c'est pas ça qu'il fallait faire, ça ne vaut rien du tout. Donc, il faut commencer par savoir quels sont les critères d'évaluation pour connaître la valeur de vos travaux. Et pour pouvoir valoriser vos travaux, donc les montrer d'une manière qui fasse qu'ils aient un maximum de valeur, eh bien, il faut connaître les critères d'évaluation. Alors, petite question pour compléter. Si maintenant on devait valoriser ce vélo pour le vendre, qu'est-ce qu'on peut faire pour le valoriser? Allez, des idées. Le nettoyer, mettre en valeur ses performances. Le peindre. Remplacer la selle. Au plus offre. Oui, bien. Bien le présenter, le mettre dans un écrin qui le met en valeur, c'est un peu ça l'idée. Ok, ouais. Mettre en valeur son utilité, raconter une histoire autour du vélo, j'ai entendu. Lui inventer une histoire. Alors ça, c'est risqué, parce que si vous l'inventez et qu'elle se révèle fausse, mais... Alors tout de suite, je voudrais démystifier quelque chose. Pipoter, ça marche un peu, mais ça marche rarement longtemps. Et surtout, alors peut-être vous pouvez bluffer un prof qui vous donne une note qu'une seule fois et qui vous verra plus après. Vous avez bien pipoté et vous avez une bonne note, tant mieux pour vous. Mais dans la vie professionnelle, ça marche pas longtemps, hein, parce que celui qui pipote, on finit par le savoir et c'est difficilement renouvelable. Donc, moi, j'ai retenu trois mots pour dire comment on peut le valoriser. D'une part, on peut faire des changements cosmétiques, du genre le nettoyer, repeindre, enlever la roule, que sais-je, à condition, évidemment, que ça soit pas un vélo historique, donc il faut surtout pas enlever la roule, sinon on lui enlève de la valeur. On peut, effectivement, il y a des changements qui sont de l'ordre de l'écrin, le présenter dans un endroit qui fait qu'il sera bien mis en valeur. Et puis enfin, une manière de mettre en valeur, c'est le discours qu'on produit. Alors on ne va pas forcément inventer une histoire, mais en tout cas, on va produire un discours qui va augmenter la valeur du vélo. J'ai une dernière question sur ce vélo. C'est qui décide de la valeur de ce vélo? Voilà. C'est l'acheteur, s'il s'agit de le vendre. En tout cas, c'est l'évaluateur. Et donc, il est super important de connaître l'évaluateur pour avoir une idée de la manière dont on peut valoriser ce vélo. Valoriser, c'est le mettre en valeur, et valoriser, c'est lui donner de la valeur. Alors j'insiste là-dessus, pour moi, les deux sont complètement liés. C'est-à-dire que vous voyez bien le vélo du général de Gaulle, s'il n'y a pas l'étiquette devant qui dit c'est le vélo du général de Gaulle, il n'a aucune valeur. C'est-à-dire que l'étiquette lui donne sa valeur. Donc la mise en valeur et la valeur, c'est extrêmement lié. Si vous produisez un super boulot, mais que le seul objet, par exemple un rapport, si on peut juger votre travail à travers un rapport, et que le rapport est tellement mal foutu qu'on ne comprend rien à ce que vous avez fait, peut-être que le boulot était superbe, mais la note, ça sera zéro quand même. C'est-à-dire que, du point de vue de l'évaluateur, le travail sera mauvais, parce qu'il a été mal présenté, et qu'il n'a aucun moyen d'accéder au travail réel. Donc les deux sont très liés, hein, mettre la valeur, donner la valeur. Et voilà. Et du coup, dans vos travaux, c'est important non seulement de valoriser le résultat, mais aussi de valoriser le processus. Alors, je voudrais vous donner un exemple. Si, par exemple, je suis devant un jury et que je dis, voilà, avec mon groupe, nous avons lu cet article que nous allons vous présenter. Je reprends et je présente les choses autrement. Voilà, avec mon groupe, nous avons cherché un article intéressant pour notre sujet. Nous, avec une documentaliste spécialisée, nous avons retrouvé des sites spécialisés dans la matière que nous travaillons, et on a trouvé une centaine d'articles. Sur la base des résumés, nous en avons choisi 5 que nous avons lus. Et parmi ces 5, celui-ci nous a paru particulièrement pertinent parce que, et nous allons vous présenter. Là, vous voyez bien que tout de suite, l'article que vous présentez, il a beaucoup plus de valeur que si vous avez simplement dit, on va vous présenter un article. Donc valoriser le résultat et valoriser le processus. Donc ça, je vous ai déjà posé la question, hein, qui juge de la valeur du vélo, l'acheteur, celui qui... Voilà, la valeur, elle est donc perçue par des humains, et l'humain, il est influençable, positivement, négativement. Donc valoriser, c'est pour, tant qu'à faire, faire en sorte qu'il soit influencé positivement. Alors la conclusion, c'est qu'il faut communiquer. Pour influencer positivement, pour que l'humain qui est chargé d'évaluer trouve la valeur, il faut communiquer. Alors on peut communiquer pour se mettre d'accord sur les critères, on peut communiquer pour le mettre en valeur au sens l'écrin, et puis on peut communiquer pour faire comprendre à l'évaluateur, pour le convaincre qu'effectivement il y a une valeur unique au travail qu'on a fait. Voilà, j'en arrête là sur le premier point qui était qu'est-ce que valoriser ? Et j'attaque le deuxième, donc la conception de l'acte de communication qui permet de valoriser vos travaux. Alors pour y arriver, on va se... Oui, alors d'abord une petite aparté. C'est un bouquin de pédagogie, Understanding by Design, dont l'idée clé est que la bonne compréhension par des élèves de ce que l'enseignant veut leur passer n'est pas tant dans ce qui se passe là entre vous et nous que dans ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que c'est la conception du cours qui assure l'essentiel de la réussite du cours. C'est ça l'idée du livre. Je pense de même que pour un acte de communication, l'essentiel de la réussite, elle tient dans tout le travail de préparation, et pas seulement à ce qui se passe au moment où vous êtes en train de parler. Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu déjà ces trois clous. Alors peut-être pas tous, parce que c'était facultatif, les enseignants de vos groupes de communication pendant la semaine du séminaire avaient à leur disposition ces diapos, ont pu les utiliser ou ne pas les utiliser. Les idées qui sont derrière, je suis sûr qu'ils les ont dites, mais pas forcément avec ce support visuel. Alors, derrière ces trois clous, vous allez vous mettre en binôme, enfin ou en trinôme, là, pour ceux qui sont par trois, c'est pas grave, par deux ou trois, et je vous invite à vous rappeler de ce qui vous semble être les trois points essentiels du séminaire de communication. Donc, vous mettez en binôme ou en trinôme, et vous répondez à cette question. Après, je passerai dans les rangs pour vous donner la parole. Et vous avez 60 secondes pour trouver trois points essentiels.
Bah, du coup, on a dit que les trois grandes idées du séminaire, c'était négocier, écouter, et le non-verbal aussi, ça compte.
Donc là, on a trois thèmes, hein, négocier, écouter, et le non-verbal. Est-ce qu'il y en a qui ont réfléchi autrement, qui ont d'autres propositions à faire, qui n'auraient pas été dites là? Forcément, oui.
Alors, un autre thème, ça pourrait être organisé.
Alors, moi, j'aimerais pas un thème, j'aimerais une idée clé. C'est-à-dire quelque chose qui vaut, quand on veut faire une action de communication, qu'est-ce qu'on prend en compte, qu'est-ce qui...
La rhétorique.
D'autres idées?
Pour les trois clous, on avait trouvé écoute, posture et contenu.
Nous, notre idée, c'était quand on négocie, dire ses objectifs clairement et faire en sorte que l'autre puisse exprimer clairement ses objectifs.
Ok, d'autres idées complémentaires de ce côté-là? Alors, je vais vous mettre sur la voie. Donc, dans les trois clous, il y avait donc les deux clous qui sont là, puis celui du milieu, je vais y revenir tout de suite. Donc, la première idée, moi, que j'aimerais que vous reteniez de ce séminaire, c'est que autrui ne pense pas comme moi. C'est absolument capital pour bien communiquer, d'avoir l'intuition et plus que l'intuition, la certitude de que autrui ne pense pas comme moi et que si je veux l'amener à me comprendre, j'ai besoin d'aller vers lui, de réfléchir à ce qu'il a en tête. Alors, la théorie des représentations mentales dont vous avez dû faire écho dans vos groupes me permet de schématiser ce qui se passe quand on écoute l'autre en prenant en compte le fait qu'il ne pense pas comme soi. Et du coup, l'écoute que vous avez dite est tout à fait essentielle puisque si j'écoute l'autre, je vais commencer à comprendre qui il est, ses schémas de pensée, et à ce moment-là, je vais pouvoir adapter mon discours à l'autre. Le troisième clou, c'était l'idée, donc aussi une autre idée fondamentale, en situation professionnelle, on communique avec un objectif. Et un objectif, ça se détermine en termes de, à la fin de ce temps de communication, à la fin de ce dispositif de communication, je veux que l'autre, il sache que, il soit convaincu que, il achète, il se met à bosser, enfin voilà, tous les objectifs qu'on peut imaginer. En tout cas, il y a un objectif dans la communication professionnelle. Et heureusement, dans la vie normale, on communique sans trop se demander pourquoi on communique. Hein, on communique pour vivre, on communique pour être en relation. Mais en situation professionnelle, pas de communication sans objectif. Et dans le clou du milieu, il y avait quelque chose là que certains ont commencé à dire, vous, en parlant que quand on négocie, il faut avoir un objectif. En fait, c'est la pertinence d'une action de communication, elle tient à la bonne articulation de cinq mots. Est-ce que vous seriez capable de retrouver ces cinq mots? Dans les cinq mots, il y avait objectif, effectivement. D'autres idées? Oui, qui, quand, quoi, comment? Alors, derrière le qui, c'est le public. À qui je m'adresse, le public. Dans le quoi, il y aurait qu'est-ce que je dis, donc le message. Dans le quand, d'ailleurs dans le quoi et le comment, il y aurait le message à la fois avec la forme et le contenu. Dans le quand, on aurait des idées de ce qui est autour du contexte, comment ça va se passer, voilà. Et qu'est-ce qui me manque comme mot? Pourquoi, ça serait l'objectif. On doit avoir les cinq, là, je pense. Hein. Si tout va bien, ça va s'afficher. Voilà, donc le message, le média, l'objectif, le public, le contexte. Donc, si on reprend ces cinq mots autour de ce clou, je ne vais pas reprendre tout, mais mettre en valeur juste un point ou deux. Voilà, l'idée que dans les exercices qui vous sont donnés, et on va y revenir juste après, dans vos écrits vos rapports de projet, vos soutenances de projet, le public, il est donné. C'est-à-dire que le public, ça va être votre jury, par exemple. Le public du rapport, c'est celui ou ceux qui vont le lire. Le média aussi, il est un petit peu imposé. Par exemple, soutenance orale, rapport écrit, un certain nombre de normes à respecter, etc. Mais il reste que vous avez quand même, comment dire, ça ne suffit pas de dire le public, c'est monsieur Intel qui va noter mon rapport. Il faut se demander, mon public, c'est qui au sens, qu'est-ce qu'il connaît déjà du projet, qu'est-ce qu'il connaît déjà de mon travail. C'est-à-dire que s'il a tout vu, s'il sait tout, il y a peut-être des choses que je peux taire. Alors que par contre, si c'est quelqu'un d'extérieur qui ne sait pas tout le boulot que j'ai fait, il faut bien que je décrive un certain nombre de choses que lui ne comprend pas. Si dans mon public, et ça sera le cas dans certains jurys de soutenance, j'ai des gens qui ne sont pas des spécialistes du domaine, je dois aussi m'adresser en sorte que des gens qui ne sont pas spécialistes puissent comprendre. Donc, il faut que je le tienne en compte. Voilà. Donc, il faut aller un peu loin dans l'analyse du public pour savoir exactement à qui je m'adresse. Et pareil, le média, même si on vous dit « Ok, c'est une soutenance orale », mais il reste qu'autour de ce média-là, il y a des à côté. C'est-à-dire, par exemple, j'invite du public avec un mail pour les inviter à ma soutenance. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Il y a ce qui se passe dans la soutenance, mais il y a aussi ce qu'il y a juste avant, le moment où on dit bonjour, où on se présente. Il y a ce qui se passe après, quand on reçoit les retours du jury, la manière dont on le reçoit. Et tout ça, ça compte dans la valorisation de votre travail. Voilà, j'insiste pas. En tout cas, pensez bien à réfléchir autour de ces 5 mots pour bien préparer vos actions de communication. Si, et je rajoute encore un mot, c'est sur la différence entre l'oral et l'écrit. C'est assez évident, mais ça va mieux en le disant. Et notamment, là aussi, c'est donné, mais dans la vie professionnelle, vous aurez à faire des choix. L'écrit a un intérêt, c'est que l'autre a le temps. Il peut tourner une page, revenir en arrière, etc. Il a un inconvénient, c'est que vous ne voyez pas les réactions de l'autre. Et par exemple, en situation de conflit, mieux vaut aller voir la personne pour lui dire des choses et mesurer dans ses yeux s'il comprend bien que d'envoyer un mail où vous ne savez pas du tout comment il va réagir. Vous voyez ? Et donc, habituellement, l'écrit convient bien à ce qui fait appel à la raison, à une raison un peu développée, argumentée, etc. Alors que l'oral convient mieux à dire l'essentiel, à ce qui fait appel à l'émotion, à l'imagination. Voilà, en gros, de grandes distinctions. J'attaque donc maintenant ce qui relève de l'écrit. Alors, de quels écrits parle-t-on ici? On parle d'abord donc du rapport de projet que vous aurez à faire à la fin de votre projet de première année, et puis aussi d'un article qui ressemble à un article scientifique que vous aurez à faire à la fin du projet d'initiation à la recherche. Mais pour mémoire, si on parle de ça ici, c'est parce que dans votre titre professionnel, il y aura un tas d'autres écrits à bien prendre en compte. Eh bien, voilà, encore petite mise au travail. Votre rapport de projet, donc celui que vous êtes en train de faire maintenant, le projet de première année, quel sera le public de votre rapport? Quels sont les objectifs de votre rapport? Et quel est le contexte de réception du rapport? Allez, il faut sourire un peu là-dessus. En binôme, trinôme, allez-y. Voilà, c'est fait, et aux surprises, je change de côté. Alors, on vous écoute.
Donc le public, nos professeurs ou des tuteurs. Donc il y a des gens qui connaissent le sujet, il y en a qui ne le connaissent pas. Donc là, ça dépend un peu. Nous, je sais qu'il y aura quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que fait. C'est la répartition des élèves dans les projets de département. Et l'objectif de notre rapport, nous, c'est de fournir, d'expliquer notre démarche, mais aussi d'assurer la documentation et la continuité du projet, que le programme informatique puisse être repris dans quelques années par n'importe qui. Et le contexte de réception, il n'y a pas réfléchi.
Alors, je voudrais dire quelque chose de super important à partir de ce que vous avez dit, parce que j'ai compris que dans votre projet, en fait, l'objectif du projet, c'est de créer un code informatique. Et donc, le projet sera réussi si vous créez un code qui fonctionne et qui fait qu'on peut répartir intelligemment les élèves, automatiquement les élèves dans des projets, c'est ça? D'accord. Et donc là, le rapport, il a pour but d'expliquer la démarche pour qu'on sache la qualité du travail que vous avez fait, donc valoriser le travail que vous avez fait. Et il a aussi pour but de permettre la pérennisation du travail, c'est-à-dire s'il faut retravailler dessus, que les suivants puissent comprendre d'où vous êtes parti, où vous êtes arrivé et comment ils peuvent continuer, c'est ça? D'accord. Alors vous voyez qu'il y a une très grande différence entre ce type de projet et du coup ce type de rapport et un projet dont l'objectif serait de produire des connaissances. Par exemple, faire une synthèse bibliographique sur tel sujet, ou bien interviewer des gens et savoir ce qu'ils pensent de tel sujet, ou L'objet produit par le projet, c'est un écrit. Alors que vous, l'objet produit dans le projet, c'est un code informatique. Dans d'autres cas, l'objet, ce sera une maquette ou que sais-je. Et donc, c'est sûr que dans tous les cas, il y a un rapport qui est chargé de valoriser l'objet. Attention, dans certains cas, le rapport, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois la production et l'objet qui permet de valoriser la production.
Bah, moi, c'est un peu pareil, parce que le public... je suis dans un projet qui consiste à évaluer le potentiel géothermique d'un projet du Grand Paris. Et donc, on va présenter à des enseignants et des tuteurs et des membres de l'administration. L'objectif, ce sera de leur expliquer bien notre sujet, ce qu'on aura apporté sur cette question comme réponse et comme recommandation. Voilà.
Vous avez l'ambition d'aller jusqu'à des recommandations, et des recommandations qui s'adressent à qui ?
Qui s'adresseraient par exemple à des membres de la Société du Grand Paris. On a ici endossé un rôle de bureau d'études, et donc on doit étudier les performances d'un système de chauffage et qu'on recommanderait du coup d'installer dans les infrastructures.
Vous voyez qu'on a plusieurs objectifs qui sont en un seul. Alors, moi, je dis souvent, les objectifs, c'est comme des poupées russes, parce que derrière un objectif, il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre. C'est-à-dire qu'il y a un objectif, clairement, de convaincre les enseignants qu'il faut nous mettre une bonne note, mais il y a un objectif plus noble, on va dire, d'apporter, s'il vous plaît, d'apporter notre pierre à un édifice, hein, dans l'édification du Grand Paris, et puis un objectif de conviction des vrais décideurs sur le terrain pour qu'ils aient envie d'adopter notre solution. Quoi. Et tout ça, ce sont plusieurs objectifs, tous aussi valables les uns que les autres, que vous servez à travers un rapport de projet. Et ici, on est dans un rapport qui est la production, à la fois la mise en valeur et la production. Et le contexte de réception, vous avez une idée ? Et le contexte de réception ? Ouais, auditoire bienveillant. Ah, c'est pas... Eh bien, on va réfléchir à cette question-là avec la question suivante. Alors, je vais vous dire comment moi je lis des rapports d'élèves quand j'ai des rapports à lire. Eh bien, généralement, quand je lis des rapports d'élèves, j'en ai beaucoup à lire en même temps. Donc ça, c'est un premier élément du contexte de réception. Il n'y a pas que mon rapport à lire. Ensuite, quand je lis des rapports d'élèves, ça vient souvent en plus du boulot que j'ai déjà à faire d'habitude et qui m'occupe déjà bien mes journées. Donc, j'ai peu de temps à y consacrer. Ce qui veut dire que je vais faire ça, par exemple, dans les transports en commun, ou bien que je vais faire ça chez moi le soir, quand tout le monde est couché, mais que quand même, on m'attend et que je n'ai pas envie de rester trop loin, éloigné de ma famille. Vous voyez, donc, j'ai peu de temps à y consacrer. Et ça, pour avoir partagé avec les collègues, je ne suis pas le seul. C'est très rare les collègues qui s'installent pendant une journée, qui se disent « c'est bon, j'ai tout mon temps, je vais lire attentivement tous les projets » parce que ça n'existe pas dans la vraie vie. Alors c'est vrai pour vos projets, mais c'est vrai aussi pour un tas d'autres actions de la vie professionnelle. On fait beaucoup de choses en courant. Du coup, quand je lis un projet, voilà un rapport, voilà comment je fais. Je commence par lire, à votre avis, le résumé. Le résumé, parce que dans le résumé, je dois tout trouver. C'est-à-dire que le résumé, c'est l'ensemble du rapport en cours. L'introduction, le développement, la conclusion, tout est dans le résumé, mais en très court. Donc j'ai une idée essentielle. Ensuite, je lis le sommaire. Et j'espère que le sommaire va m'informer. Si, voyez, je vous donne un exemple. Si le sommaire me dit, grand 1, le sujet de mon projet, grand 2, ce que nous avons fait, grand 3, nos conclusions, je ne sais rien. Si le sommaire me dit, grand 1, je ne sais pas quoi, le haricot dans la culture au XVIIIe siècle. Grand 2, nos expériences sur le haricot. Et grand 3, nous avons découvert une nouvelle variété. Enfin, je dis un peu n'importe quoi, vous voyez bien. Mais enfin, vous voyez quand même l'idée. L'idée, c'est que le sommaire va m'informer. Et si le sommaire est informatif, j'ai compris la logique de votre rapport, de votre travail. Pas seulement de votre rapport, j'ai compris la logique de votre travail en lisant le sommaire. Et du coup, après, je peux lire rapidement. Sans perdre d'éléments essentiels. Et après, par quoi je vais être attiré ? Je vais être attiré par les débuts de paragraphe, je vais être attiré par les images, les figures. Et la lecture, elle va être rapide. Ensuite, souvent je lis aussi quand même, avant de lire le détail, je lis l'introduction, la conclusion. Alors, si vous prenez en compte le fait que le lecteur, il est pressé et qu'il veut aller vite à l'essentiel, il faut absolument l'aider. Et donc vous l'aidez Enfin, je lui dis des tas de choses que je devais dire après. Du coup, là, je mélange un peu. Je suis tout en mal lancé, mais c'est pas grave. Vous l'aidez en ayant des titres pleins qui sont informatifs. Vous l'aidez avec une mise en page qui est belle et qui fait qu'il a envie de lire, qu'il voit rapidement où se situent les choses. Vous l'aidez avec des belles figures significatives. Vous l'aidez avec une introduction qui est vraiment une introduction, avec une conclusion qui est vraiment une conclusion, avec un sommaire qui est avec un résumé qui est vraiment un résumé, etc. Alors j'ai écrit « et un chercheur » parce que vous allez avoir à la fin, pendant le temps du projet d'initiation à la recherche, une intervention comme la mienne faite par un chercheur en mécanique, Mathieu Van Damme, qui va vous dire pourquoi c'est important d'écrire quand on fait de la recherche et comment on peut écrire. Et il nous a partagé comment un chercheur qui est chargé d'évaluer, vous savez qu'on fait l'évaluation par les pairs dans la recherche, peer review, et que donc quand quelqu'un écrit un article, il est relu par je ne sais pas combien... 8 chercheurs qui doivent faire la revue de l'article. Et en principe, ils sont censés mettre à peu près 8 heures pour lire un article. Et quand vous écoutez les vrais chercheurs qui sont vraiment dans cette situation-là, ils vous disent que souvent, ils n'ont vraiment pas 8 heures à consacrer à ça et qu'ils vont beaucoup plus vite. Et du coup, eux aussi, eh bien, il faut que le chercheur qui écrit son article l'écrive de manière bien structurée, selon les codes qui parlent à celui qui va le lire, pour qu'il puisse rapidement comprendre l'essentiel de l'article. Vous connaissez un article de journal, quand vous voyez ça, vous savez vous y repérer. Vous savez qu'il y a un titre, un sous-titre, des intertitres, des figures, quelques chiffres, des cartes, etc. Pour nous, c'est très facile de lire ça. Alors, je vais lisez la diapo qui suit. Bon, vous voyez tout de suite la différence. L'idée, c'est que la mise en page, c'est vraiment important pour faire comprendre les idées les plus importantes. Que les idées les plus importantes, elles doivent pas forcément venir en premier au sens chronologique, mais elles doivent être les plus visibles, les plus accessibles. Comme dans un article de journal. Mais si on s'y repère dans un article de journal, c'est parce qu'il y a des normes. On sait comment c'est construit, donc très vite, on sait où il faut chercher les informations. Eh bien, dans vos produits, dans vos rapports de projet, dans vos rapports, dans un article de recherche, c'est pareil, il y a des normes. Et pour être lu et bien lu et rapidement, il faut respecter ces normes. Alors, donc, je reviens rapidement sur ces normes, j'en ai déjà dit quelques-unes. Pour ce qui est d'un rapport de projet, on va dire standard, académique, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres rapports, donc on s'attend à trouver des titres, des sous-titres, des intertitres, ça oui, qui sont le plus informatif possible. Une autre norme, c'est que le résumé, donc il y a tout. C'est vrai aussi, ça pour l'article de recherche, hein. Mathieu Van Damme disait, c'est « a mini version of the paper ». Donc, dans le résumé, on doit trouver tout. Ensuite, que l'introduction, c'est l'apéritif. Donc, on doit comprendre pourquoi la question est posée, pourquoi on a fait ce projet, quel était le point de départ. Et puis, on doit aussi savoir où est-ce que vous allez nous mener. Autrement dit, on doit introduire le plan. Pas plus compliqué que ça. Dans la conclusion, on doit trouver là où vous êtes arrivé. On ne reprend pas tout dans la conclusion, il y a juste les conclusions au niveau scientifique, les savoirs que vous avez produits en résumé. Et là aussi, Mathieu Van Damme disait dans la conclusion, on doit trouver « what you learned, not what you did, what you learned ». Donc on doit vraiment trouver la substance dans la conclusion. Et puis, dans les normes aussi, donc c'est voilà l'idée que dans une conclusion, il y a généralement deux parties, une partie fermée et une partie ouverte. Partie fermée, c'est voilà où on est arrivé. Partie ouverte, bah, voilà où on pourrait encore aller. Voilà les insuffisances de notre travail. Et si on avait du temps, voilà vers où il faudrait continuer. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Pour ce qui est du papier de recherche, juste un petit mot, simplement pour vous dire que les normes diffèrent, mais Mathieu Van Damme y reviendra en détail, donc il vous en parlera plus. Mais par exemple, pour lui, un article de recherche, ça a trois grandes parties toujours. C'est le materials and methods, results, et discussion. Voilà. Ben, il faut faire ça, parce que c'est comme ça qu'on sait lire un article de recherche. Et du coup, comme dans un article de recherche, c'est assez court, et généralement, il n'y a pas des grands 1, petit 2, petit 1, petit 2, 2, etc., avec plein de titres et d'intertitres qu'on peut trouver dans le sommaire, il faut particulièrement soigner, dans ces cas-là, les débuts de paragraphe. Enfin, je dois trouver dans le début du paragraphe l'idée principale. À la fin du paragraphe, je dois trouver l'idée principale répétée, et articuler à ce qui va suivre. Paragraphe suivant, idée principale. Fin du paragraphe suivant, idée principale, articulée à ce qui va suivre. Tout ça, c'est des normes. Suivez-les pour faciliter la vie à votre public. Et pour que lui ayant facilité la vie, il ait envie de... Il voit bien la valeur de votre travail. Voilà, ça c'est une diapo aussi que j'emprunte à Mathieu Van Damme, mais j'ai envie de la compléter. Parce que il ne suffit pas d'être publié, il faut aussi être lu. Et je passe maintenant à l'oral. Allez, une minute à nouveau pour un petit travail, ça sera le dernier. Allez-y. Bon, là, idéalement, il faudrait que j'aille au milieu, c'est plus difficile à atteindre, mais je crois que je vais y arriver quand même.
Le public, ça va être le même que pour la partie écrite. Les objectifs, les mêmes que la partie écrite.
Alors, je vous arrête tout de suite, parce que le public, ça ne va pas être nécessairement le même. C'est-à-dire que le rapport, vous allez le donner à quelques personnes. Dans le public de vos soutenances, il peut y avoir plus de personnes. Alors, qui peut y avoir en plus ? Il y aura un enseignant en communication qui sera chargé d'évaluer votre prestation orale. Il n'aura pas nécessairement lu le rapport. S'il le souhaite, qu'il a le temps, à titre bénévole, il peut le faire. Ça ne sera pas interdit, mais en tout cas, ce n'est pas une obligation qu'on lui fait. Et puis dans le public, il peut aussi y avoir des gens de l'école qui viennent assister à vos soutenances, des gens de la direction d'enseignement qui sont intéressés de voir ce que font les petits de 1A et qui viennent assister et qui n'auront pas forcément lu les rapports avant. Et il peut y avoir aussi vos camarades qui seront invités aussi à participer, en tout cas, pas tous, mais en tout cas, chacun d'entre vous devra assister à quelques soutenances de camarades. Donc il y aura aussi de vos camarades qui n'auront peut-être pas lu le rapport, mais qui seront là à la soutenance. Est-ce que du coup, ça vous fait changer les objectifs ?
Un peu. Du coup, les objectifs seront les mêmes, mais aussi de montrer à quel point le travail a été réussi et puis à quel point on s'est investi dans le travail via la partie présentation orale. Le contexte de réception, je ne vois pas trop ce que c'est. Le message, ça va être pas trop d'insister finalement sur ce qu'on... Ça va être d'insister un peu sur ce qu'on a fait, mais surtout comment on y est parvenu, quelles étaient les étapes, et vraiment faire un résumé, plus que partir dans tous les détails techniques. Voilà.
À partir de ce que vous dites, on pourrait dire qu'il y a une dimension un peu vulgarisation dans la soutenance orale pour les gens qui n'ont pas lu le rapport et qui ne sont pas forcément des spécialistes, donc il faut être attentif à ce qu'ils puissent comprendre. Et puis on peut aussi dire que c'est l'occasion éventuellement de mettre l'accent sur un point du rapport, enfin choisir ce qui vous paraît le plus pertinent ou le plus intéressant, sans forcément redire tout ce qu'il y a dans le rapport. Au-dessus, là.
Il y a le contexte de réception que, pour moi, change complètement, dans le sens où on va présenter le fait que ce soit... Comment dire, qu'on a été investi et que ce soit vraiment nous qui avons porté notre projet, alors que quand on rend un texte, on n'a pas cette... on peut dire qu'on n'a pas montré l'investissement et peut-être pas aussi, aussi fort, cet objectif-là, en tout cas.
Le contexte de réception, hein, ça peut être tout bête, hein, ça peut être simplement le fait que la pièce soit chaude ou froide, aérée ou pas, ça fait partie du contexte de réception, que vous soyez bien installé ou mal installé, alors vous pouvez jouer sur ce contexte, hein, justement en aérant la pièce avant si besoin, en déplaçant quelques meubles, pas trop parce que vous n'avez pas trop de temps, mais quand même pour que vous vous sentiez à l'aise, voilà, tout ça, ça fait partie du contexte de réception. Après, pardon, j'ai perdu l'idée que vous venez de dire. Oui, c'est ça. C'est vrai que, je disais tout à l'heure, l'oral, c'est bien pour passer la passion. Et c'est vrai qu'à l'oral, vous pouvez certainement montrer la passion pour votre sujet, qui sera plus en réserve à l'écrit. Parce que ça va passer non seulement par le discours, mais aussi par le non-verbal, votre manière d'être investi, d'être présent. Des compléments ? Vous avez vu qu'en bas, j'ai marqué quel média pour l'oral ? À quoi ça vous fait penser, ça ? L'oral, c'est la voix, hein, le média, mais souvent c'est du multimédia parce qu'il n'y a pas que la voix. Alors, quelques repères. La clé de la réussite d'une intervention orale, évidemment, c'est toute la préparation qu'il y a avant, hein, comme Understanding by Design, le design de votre intervention, c'est absolument essentiel. Mais la vraie clé de la réussite, c'est que vous connaissez bien votre sujet, donc ça c'est la préparation. C'est que vous soyez intéressé par votre sujet et que vous ayez envie de le communiquer. Alors, dans un certain nombre de cas, dans la vie académique, mais c'est vrai aussi dans la vie professionnelle, votre sujet, il vous passionne que moyennement. Hein. Vous êtes tombé là-dessus parce que justement, l'algorithme n'était pas très bon, donc vous avez eu ce projet-là. Mais moi, j'ai la conviction que vous êtes suffisamment intelligent pour être toujours capable de trouver au moins un fil par lequel le sujet vous intéresse et en tirant sur ce fil-là, y trouver de l'intérêt. Et c'est ça qu'il va falloir, c'est ça qui va faire la force de votre intervention, c'est l'intérêt, peut-être pas la passion, la passion si possible, mais dans tous les cas, au moins l'intérêt que vous avez trouvé pour le sujet. Et si vous avez trouvé cet intérêt, vous en parlez et ça passe bien, quoi. Ça, c'est la première clé, c'est l'engagement. Une deuxième clé, c'est les idées. C'est-à-dire que la qualité d'une intervention orale, certes, c'est la qualité de votre prestance, le non-verbal, tout ça, tout ce qu'on peut dire. Mais si votre discours est structuré, que les idées sont claires, qu'elles sont bien articulées, votre discours passera. Deuxième clé. La troisième clé, c'est de travailler ce que j'appelle le micro-contexte de réception. C'est-à-dire que le contexte de réception, c'est on est dans une salle avec une soutenance, un jury, voilà, il est 14h à telle heure. Le micro-contexte de réception, ben, c'est tout ce que vous pouvez faire pour améliorer ce qui est donné. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, aérer la salle, disposer, comme j'ai fait là tout à l'heure avant de commencer, le pupitre qui était là, pof, je l'ai mis là. C'est me préparer, c'est aussi la manière dont vous êtes habillé pour que vous soyez présentable devant votre public et qu'il voit dans votre habit un certain respect à son égard. Voilà, c'est améliorer le micro-contexte de réception, troisième clé. Et la quatrième clé, là je crois qu'elle guette mon intervention, ce que je veux dire là, c'est se souvenir que la mémoire humaine a une capacité finalement assez courte et que si on donne trop d'idées, les gens peuvent pas les retenir. Donc il faut limiter le nombre d'idées et les structurer pour qu'elles soient le plus mémorisables possible. Et là je sens que j'atteins le point où il faut pas que j'en rajoute trop, sinon il n'y a plus rien qui va passer, mais ça tombe bien parce que j'arrive à la fin de mon intervention. Ceci est une grille d'évaluation de vos travaux, de vos soutenances orales. Alors, vous pouvez en prendre connaissance très rapidement et je vais insister sur trois points. D'abord, je vais vous expliquer comment on va utiliser cette grille. Cette grille, on va l'utiliser pour votre soutenance de projet, là, de projet sur lequel vous travaillez en ce moment. Et il y aura peut-être un enseignant en communication qui sera dans le jury, en tout cas, on l'espère, et qui utilisera cette grille. Et cette grille vous sera restituée après, comme ça vous pourrez avoir l'avis d'un enseignant en communication. Ça sera pas noté, ça sera uniquement pour votre formation, que vous ayez un retour. Et cette grille, elle sera utilisée aussi par vous-même. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura d'autres élèves qui écouteront votre soutenance. Eh bien, ces autres élèves, on leur demandera de remplir chacun une grille, comme ça, et de dire qu'est-ce qu'ils ont apprécié ou moins apprécié, qu'est-ce qui était plus ou moins réussi dans votre intervention orale. Et tout ça, ça vous sera restitué, et vous pourrez vous faire une idée de la perception qu'a eu votre public sur votre soutenance. Gratuit, pas noté. Cette grille, elle sera réutilisée lors des soutenances de projets d'initiation à la recherche. Et là, il y aura un enseignant en communication qui remplira la grille et qui terminera par une note, qui comptera pour 25% dans la note au module de communication, comme ça vous a été annoncé. Donc ça, c'est la manière dont on va s'en servir. Alors j'insiste sur trois points d'abord. Les élèves ont mis en valeur l'apport spécifique de leur travail. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose, moi, souvent, j'ai assisté à des soutenances où les élèves sont maladroits, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'ils disent des choses, mais on ne sait pas bien si ça vient d'eux ou si ça vient de l'auteur qu'ils ont lu. Et il vaut mieux dire clairement, ça, c'est pas nous, c'est un tel qui l'a dit. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, on sait de qui c'est, que de laisser un certain flou en se disant peut-être qu'ils ne verront pas, quoi. Et de dire clairement, mais ça, c'est le produit de notre pensée. C'est ce que nous avons compris ou notre formulation de ce qu'a dit l'auteur. Voilà, soyez bien attentifs à ça, à mettre en valeur l'apport spécifique de votre travail. Qu'est-ce que vous avez apporté? Quelle est la plus-value de votre travail? Elle peut être faible à vos yeux, vous pouvez vous dire, oui, bon, d'accord, je n'ai pas révolutionné la science. Mais parfois, simplement, le fait d'avoir trouvé, comme je le disais tout à l'heure, l'article qui est intéressant sur le sujet, c'est une vraie plus-value. Ou d'avoir subi un échec complet, mais d'être capable de dire pourquoi c'est un échec et pourquoi il ne faudrait pas aller par là la fois d'après, c'est une vraie plus-value. Face à la contradiction, les élèves se sont affirmés avec diplomatie. Alors j'insiste là aussi sur un point où j'ai parfois vu des maladresses, on va dire. C'est-à-dire que votre jury vous fait des critiques et vous n'êtes pas d'accord. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec le jury. Mais vous n'avez pas le droit de faire croire, enfin de faire sentir au jury, vous considérez qu'il est vraiment trop con. Pardonnez-moi d'être un peu trivial. Vous devez lui faire comprendre qu'il a sûrement de bonnes raisons de faire ses critiques, mais cependant, vous pensez quand même, vous expliquez vos raisons, vous expliquez votre raison, mais ne dites pas au jury, vous êtes vraiment trop bête, vous n'avez pas compris. Donc faites valoir votre point de vue, avec force, avec conviction, mais avec diplomatie. Et le dernier point, c'est sur les supports visuels. Donc voilà, là je reviens sur les médias. Donc le premier média, hein, c'est vous, hein, le premier support à votre intervention orale, c'est votre posture, c'est votre être, c'est votre habillement, tout ça. Ensuite, très traditionnellement, on a des PowerPoints, donc on a une image à l'écran, parfois des petits films, qui complètent l'oral. Et donc, je vais vous dire un petit quelque chose en plus là-dessus, j'espère que ça va vous parler. Alors des choses comme ça, vous allez en trouver plein sur le web, hein, c'est généralement plutôt de bonne qualité, rigolo, inspirez-vous-en, n'hésitez pas. Moi j'ai pris quelque chose chez Dieudonné Leclerc, qui est un Belge que j'aime bien, mais bon, vous pouvez en trouver d'autres. Alors, à propos de cette diapo, là, clairement, elle est quand même beaucoup, beaucoup trop complexe, écrit trop petit. Personnellement, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait beaucoup de textes sur une diapo. À une condition, c'est qu'on laisse le temps au public de décrypter la diapo. Si le public doit à la fois décrypter une diapo un peu complexe et vous écouter, ça, c'est sûr que c'est pas possible. On n'est pas capable de faire deux choses en même temps. On peut éventuellement alterner très vite de l'un à l'autre, mais on va forcément zapper des choses. Donc, vous pouvez mettre des choses un peu complexes à l'écran pourvu que ça soit lisible, mais vous laissez du temps pour que l'autre puisse décrypter, et le cas échéant, vous l'aidez en lui disant « j'ai repris ce schéma-là de tel endroit, il est très complexe, mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce point-là et ce point-là dont je vais vous parler maintenant, et ça, c'est acceptable. » Ça, c'est ma conclusion à moi. À votre avis, c'est quoi le texte qui va avec? Bien. N'oubliez pas, dans vos supports écrits, mais aussi les supports visuels de l'intervention orale, de préciser vos références. Scientifiquement, c'est nécessaire, même si on fait que la passer rapidement, on sait qu'elles sont là, on fait confiance, mais encore faut-il qu'elles y soient. Quand vous avez des images, il faut qu'elles soient libres de droit, et donc vous mettez la source, etc. Ce que j'ai fait pour cette intervention. Vous retrouverez ces diaporamas, un court texte aussi sur valoriser vos travaux à l'écrit, à l'oral, et sans doute aussi le film dès qu'il sera monté, ou en tout cas à peu près présentable, sur EducNet, sur la page du séminaire de communication. Pour le diaporama et le court texte, je ferai ça dans l'après-midi, donc vous l'aurez dès ce soir. Le film, ça viendra un petit peu après. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu, il y avait 4 points. Qu'est-ce que valoriser ? La conception de l'acte de communication qui sert à valoriser l'écrit, l'oral. Valoriser, c'est une question de critères, c'est une question d'humain, et donc ça vaut la peine de communiquer pour valoriser. C'est de la com. La com, c'est avant tout de la conception, et c'est de la qualité de la conception que naît la qualité de l'acte de communication. La com, c'est la bonne articulation entre messages, médias, objectifs, publics et contexte. Et enfin, un dernier conseil. Ça, c'est le minimum, mais on attend mieux que vous. C'est la chose suivante. Bonne fin de journée. Tirez le meilleur parti de cet amphi.